100% Aiglon.
100% Aiglon.
Benjamin Pierson.
100% Aiglon, c'est parti. Une heure pour débriefer le match d'hier de l'OGC Nice. L'OGC Nice qui a fait match nul 2-2 sur la pelouse de l'OM et qui avance un peu plus vers une place européenne. Alors, est-ce que l'Europe est actée? Quid du prochain match contre Strasbourg face à notre vieil ami Patrick Vieira? La Team Sport de France Bleu en grand complet répond à nos interrogations. On commence avec un journaliste qui n'hésite pas à tacler l'arbitrage lorsqu'il le faut. C'est un peu notre Cyril Roll à nous. Salut Maxime.
Salut Benjamin, salut à tous. En toute objectivité à chaque fois,
bien
sûr.
En toute objectivité, in fine, pour paraphraser notre directeur sportif. Lui est polyvalent, un homme à tout faire, notre Mathieu Bonnemer à nous. Victor Jutmer.
Salut, salut.
Et un attaquant redoutable en son temps, Patrice Alberganti. Salut Patrice.
Bonsoir à tous.
Oh, ça va rougner là.
Ça rougne depuis hier soir, je peux le dire.
Et je crois que les supporters aussi vont rougner. Vous nous appelez en cas de. Bah, vous avez quelque chose à dire, hein. Vous nous appelez 04 93 82 03 04. J'en profite aussi pour dire que vous pouvez remporter vos deux places pour le Monaco e-prix de ce week-end. C'est le samedi 27 avril, donc dans deux jours toute la journée. Une super course de voitures, de la Formule E, des voitures électriques qui filent à toute allure sur le rocher. Pareillement, pour gagner vos places, 04 93 82 03 04. Parenthèse fermée, messieurs. Bon, je pense que comme beaucoup de Niçois, on est tous énervé contre l'arbitrage. Je crois que Patrice, il se renvoie la balle. Je crois que faut savoir qu'il est le plus
énervé.
Je vais
laisser Maxime
lancer la machine, lancer la bête. Non, mais c'est vrai qu'on est un peu catastrophé de voir ces erreurs d'arbitrage s'accumuler. Alors nous, on est directement touchés et sacrément touchés cette saison, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent s'estimer lésés. Alors oui, pour revenir sur le derby d'hier, encore une fois, l'arbitre prend une place trop importante. On le disait en début de match, on espère que Jérémy Pignard ne sera pas un acteur de ce derby, et malheureusement on n'a que ce nom à la bouche depuis hier soir. Alors il y a ce deuxième jaune pour Mumbagna déjà qui fait un peu polémique. Moi je trouve que il est contestable, mais il peut se justifier par rapport au fait que Mumbagna, le Marseillais, a déjà un jaune pour la même faute et que malgré son avertissement, il retourne un peu au contact et prend le risque de prendre ce deuxième jaune qui est peut-être un petit peu sévère. Mais alors que dire de ce pénalty offert aux Marseillais, parce que le geste de Mohamed Ali Chow, il est maîtrisé, il dégage le ballon et son geste est naturel, pas dangereux, et enfin le penalty derrière est absolument lunaire. Patrice, qui a été joueur, le geste de Mohamed Ali Chow, il y a aucune manière de le, il est pas répréhensible. On est d'accord.
Mais comment tu veux défendre différemment? Il dégage le ballon, il reprend son appui, malheureusement il y a le pied du Marseillais qui glisse dessous. Il n'y a aucune intention de faire faute, il n'y a aucun jeu dangereux, il y a juste un geste défensif que fait Mohamed Ali Chow. Je comprends pas comment tu peux prendre cette décision-là. Je comprends pas. Pour parler de l'arbitre, moi je tire la sonnette d'alarme, parce que regardez aujourd'hui l'influence qu'a un arbitre sur un résultat de match de football. Regardez aujourd'hui comme un arbitre peut mettre à mal un projet sportif respectif de chaque club. Certains vont jouer pour se qualifier en Coupe d'Europe, d'autres vont jouer pour pas descendre. Regarde l'impact que ça a. C'est une catastrophe, l'arbitrage français. Alors, après, c'est des êtres humains, pas de problème. Ils peuvent faire une erreur, aucun souci. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, les mecs, dans la VAR? Qu'est-ce qu'ils foutent?
Bah hier, ils le rappellent à l'ordre. Hein. Ils lui disent attention, Jérémy, sur le pénalty de Chow, il y a peut-être matière à revenir sur ta décision. Et il est allé voir l'image. Et il a confirmé sa décision.
Et combien de temps il est allé voir l'image?
Ah bah oui, mais après ça, c'est...
2 secondes.
C'est l'utilisation du VAR qui en
deux secondes, parce que ce pénalty est un pénalty compensatoire par rapport à l'erreur qu'il a fait, parce que pour moi, il n'y a pas de deuxième carton jaune, il n'y a pas carton rouge pour Mumbagna. Après, ça fait débat, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Mais la VAR doit pouvoir dire attention, là tu as fait une vraie erreur, il n'y a pas pénalty, il faut que tu revoies ton jugement. Il y va, il constate ça en 2 secondes, il a une telle pression. Les arbitres, moi je peux te le dire, parce que j'ai parlé avec plein d'arbitres qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont arbitré au Stade Vélodrome, et ils te disent, quand tu arrives à Marseille, c'est pas pareil. Donc quand tu arrives à Marseille, c'est pas pareil. Quand tu vas arbitrer le Paris Saint-Germain, c'est pas pareil. Quand tu vas à Lyon, c'est pas pareil. Mais ils nous prennent pour des cons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, parce qu'on est Nice, parce que et les autres clubs, je te parle pas que de Nice, de Lorient, de Reims, parce que nous on met pas de pression, il y a pas de pression du public, il y a pas de pression du staff du club, il y a pas de pression du club. On est logé à pas la même enseigne que les autres. Mais ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que moi, pour moi aujourd'hui, c'est pas une mafia les arbitres, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils font comme ils veulent. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir revoir le règlement pour pouvoir, à un moment donné, contester en tant que club professionnel des décisions manifestes qui influent trop sur le résultat quand elles sont avérées fausses. J'en ai marre vraiment de tout le temps, toutes les saisons, à avoir des décisions qui sont contre le club, qui annihilent nos objectifs, qui nous mettent à mal dans notre projet parce que une personne a décidé que ça allait se passer différemment. J'en ai marre.
C'est vrai que Victor, je vais te lancer là-dessus, mais on a l'impression que depuis le début de saison, il n'y a pas une fois où le GC Nice a gagné des points un peu grâce à peut-être le pénalty contre Metz, allait à la limite, mais on s'est pas mal fait.
On en rigole avec Maxime pendant le match et à chaque fois on se dit ah, si c'est pour Nice, nous on a le rouge ou nous il est pas enlevé. Nous ce qu'on critique, je pense qu'il a rien contre nous l'arbitre d'hier, c'est l'utilisation de l'arbitrage de manière générale. Quand Dante il prend un rouge, on lui dit va voir la VAR, ou il lui donne pas le rouge, va voir le VAR. Il faut lui mettre. Là, il va voir le VAR. Ah non, finalement, ça tourne jamais en notre faveur. À Lyon, le Tomba, il peut avoir un penalty. Ah, on va pas voir la vidéo. Enfin, c'est l'utilisation de manière générale qu'on critique. C'est pas l'arbitre en lui-même et le fait que les dirigeants marseillais puissent mettre autant la pression à la mi-temps, comme on a vu les images où Benatia va lui vraiment nez contre nez lui dire il y a pas penalty, il y a pas rouge, il y a pas faute sur Mombania. Forcément, ça influence. On laisse faire tout ça et effectivement, tu parlais de pression. Ils arrivent à mettre cette pression et Nice l'a subi. Après, on parlera du sportif. C'est aussi parce que Nice n'a pas cette marge-là sportivement et est tributaire des décisions arbitrales de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que, bah, comme Brest l'a critiqué aussi, qu'il y a certains clubs en ce moment qui sont pas dans les bons papiers, inconscients, on va dire.
Non, mais en plus, on est encore une fois trop gentil. Mm-hmm. Moi, j'entends les mots hier de Francesco Farioli en conférence de presse qui dit non, mais l'arbitre a fait un grand match. Alors, ok, il y a un pénalty, on a tous vu les images, c'est incontestable, mais par ailleurs, sur le reste du match, il a fait un grand match. Et à un moment, il faut qu'une voix s'élève. Alors, le président River l'a fait après Lyon, mais il l'a fait sûrement un petit peu trop tard. Ça n'a pas eu d'effet puisque on sortait déjà d'une séquence de 3 matchs où on venait de perdre des points à cause de l'arbitre, hein, puisqu'il y avait eu Brest, une main dans la surface, Monaco, le rouge de Dante, et puis Lyon, c'est pénalty. On s'est amusé un peu à faire les comptes des points perdus très factuellement, hein, sans interprétation du règlement, mais simplement sur ces pénaltys évidents qui n'ont pas été sifflés ou ces cartons rouges qui n'auraient pas dû être donnés. C'est 8 points de perdus cette saison. 2 à Lorient avec la chaussure de Guessant arrachée dans la surface sans qu'il y ait pénalty. 2 à Brest avec cette main sur une tête de Rosario en pleine surface décollée du corps, pas de pénalty. Il y a effectivement ce derby contre Monaco où Dante prend le rouge à un partout. Allez, on va même pas dire qu'on a perdu 2 ou 3 points. Non, on a perdu le point du nul qu'on était en train d'avoir avec l'expulsion de Dante. On finit par perdre ce match. On perd au moins 1 point à Lyon avec un pénalty à l'Otomba. Et puis hier, c'est, je pense, 2 points de perdu. Donc ça fait 8.
Plus à Monaco l'aller, Maxime, je te coupe. Ou bon, on finit par gagner, mais je veux dire.
Oui, voilà, c'est les points que tu perds. Voilà, vraiment, oui, okay, qui te manquent aujourd'hui par rapport au Sénat. Des décisions défavorables qui te font perdre des points, parce qu'on le disait tout à l'heure. Moi, j'ai pas de souvenir d'une décision favorable cette saison qui a une influence décisive.
Bah là, il y en avait une avec le rouge de Mombania, parce que déjà c'est un deuxième jaune, donc et sur le premier tacle, il peut avoir rouge direct. Il y a certains arbitres qui peuvent mettre rouge direct. On dit c'est un peu favorable, mais non. Si après c'est pour compenser et nous non, c'est pas une décision favorable.
Ça. Surtout qu'on n'a pas le droit de compenser en fait. Factuellement, on n'a pas le droit de compenser.
Ça fait 2 erreurs.
Voilà. Et surtout qu'on n'a pas envie d'être avantagé par les arbitres. Mmh. On veut juste être arbitré normalement de partout. C'est pas pareil.
Mais c'est ça qui crée cette frustration, cette colère, c'est qu'on voit cette incohérence alors qu'on a notamment un outil pour rendre cohérent ces décisions-là.
Qui sert à rien.
Mais c'est ce que tu disais, Patrice, tu parlais de mafia. En fait, aujourd'hui, c'est un système où certains arbitres ne veulent pas être contredits, d'autres n'osent pas. Il y a des personnalités qui sont plus importantes que d'autres.
Ils perdent des points s'ils sont appelés par le VAR et qu'ils contredisent. Rien que pour la notation, c'est bizarre. pour ça que Turpin, quand il était dans le VAR pour le rouge de Dante, il aime bien appeler et contredire parce que lui, il prend des points. Enfin, ça peut aller loin. Il y a un truc qui est mal fait. Il y a un système qui est mal fait voilà. Et qui permet pas d'arbitrer normalement. C'est même pour eux, on a envie de dire, c'est pas le bon outil, c'est pas la bonne utilisation, même pour vous, les arbitres.
100% Aiglon. 100% Aiglon. Sur France Bleu Azur.
Deuxième partie de 100% Aiglon, toujours avec la Team Sport, Patrice Albaganti, avec Victor Jutner, Maxime Baquier. On débrief le match de l'OGC Nice qui a fait 2-2 hier contre l'Olympique de Marseille. On parlait il y a quelques instants de l'arbitrage, mais on va se recentrer un petit peu sur le jeu en lui-même. Et messieurs, c'est vrai qu'on peut faire la grimace parce que l'OM a joué à 10 pendant 60 minutes et on a l'impression que Nice méritait pas mieux et aurait même pu s'incliner à la fin avec ce rush de Bameyang.
60 minutes, non. Moins.
Oui, une mi-temps. 45. T'as dit une heure de jeu. Oui,
oui, une bonne heure quasiment.
Ouais. Non, il sort à la mi-temps.
Il sort à la mi-temps.
Mais ça nous a paru une éternité.
Merci Victor de rattraper mon erreur. Oui, alors messieurs, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a pas été capable de. Une expert individuelle de barre avec cette frappe en tête, mais vraiment pas de créer le jeu finalement.
Ouais, poussif. Très poussif dans le jeu. On a fait 20 bonnes minutes. Je me suis régalé. J'ai dit, oh putain, alors là, franchement, les gars, ça part bien. On allait pousser cette équipe marseillaise dans son camp. On faisait des gros efforts dans la zone du porteur du ballon pour aller récupérer le ballon. On harcelait tout le temps cette équipe marseillaise. On s'est créé des occasions. On a marqué. On aurait pu aggraver le score tout de suite après. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Encore une fois, flop. On recule. On se met derrière. On laisse le ballon au Marseillais. Il se passe ce qui se passe. Carton rouge de Mbagna. Je me dis bon, ils vont rentrer en seconde mi-temps. Ils vont changer de système de jeu, ils vont jouer un peu plus haut, aller chercher un peu des ballons un peu plus haut et être présent au deuxième ballon. Non, on continue à conserver le ballon derrière, on va pas leur mettre la pression. Je comprends pas ça. C'est quelque chose qui me dépasse. Si tu veux, c'est des discussions que j'aimerais avoir avec les entraîneurs, qui m'expliquent pourquoi à un moment donné, on est 10 contre 11, pourquoi on va pas brûler les cartouches de Marseille qui sont à l'agonie physiquement. Pourquoi on va pas les faire jouer dans leur camp avec des longs ballons qui vont les user, qui vont les obliger à travailler, qui vont les obliger à faire des courses, qui vont les obliger à se dépenser, alors que là on joue latéral, Marseille bien en place, il laisse le bloc en place, ils coulissent, ils font moins d'efforts, donc ils se fatiguent moins et on joue quelque part le jeu des Marseillais. Et on n'impose pas notre rythme, notre agressivité, notre intensité pour aller justement déverrouiller le cadre de la Marseillaise. Et surtout, pourquoi on n'arrive pas à se dire à un moment donné, quand on est à 10 contre 11 et que les Marseillais ont mis le bus devant le but, les exploits individuels, les actions individuelles. Il faut à un moment donné prendre ses responsabilités et aller chercher la différence, créer du danger, obtenir des fautes, les mettre en difficulté. Je trouve qu'on a, en deuxième mi-temps, un petit peu déjoué par rapport à la physionomie du match.
Oui, non, c'est vrai. On a l'impression que tout était réuni pour enfin voir des Aiglons conquérants saisir cette opportunité, aller enfin chercher un deuxième succès d'affilée en championnat, ce qui n'est pas arrivé depuis des mois. Tu ouvres le score très vite, tu es contre une équipe marseillaise, comme tu l'as dit, à l'agonie physiquement, 46e match de la saison, qui avait plus grand-chose à jouer. Tu te retrouves à 11 contre 10. Et ça ronronne. Tu parles d'exploits individuels. Finalement, le seul qu'on voit, c'est celui de Melvin Barr, donc l'arrière gauche. Boga, il s'est un peu perdu sur son côté. Shaw a fait les efforts défensifs, mais c'est vrai que avec le ballon, il se passe pas grand chose. Thuram, toujours la même chose. Ça part bien, ça finit mal. Et donc, c'est vrai que tu te demandes qu'est-ce qui manque à cette équipe pour trouver cette continuité, parce qu'effectivement, ça part bien. Tu mènes au score. Et t'éteins la lumière, tu tombes dans une forme de faux rythme voulu ou subi, hein, parce que le coach va te dire que lui, ce qu'il veut, c'est les 25 premières minutes. Donc après, comment ça se fait que ça s'éteint? Faute aux joueurs, faute au staff qui n'arrive pas à maintenir cette intensité. C'est vrai que c'est assez perturbant de voir ça, c'est assez frustrant, parce que c'est vrai qu'hier, tu mérites pas mieux que ce nul, et presque c'est un bon point vu la fin de match et ses occasions marseillaises.
Victor, toi qui étais au commentaire, en tout cas avec Maxime dans les studios.
Moi, si on devait me demander comment je pouvais résumer cette saison, je dirais regarde le match contre Marseille. C'est toute la saison de Nice est liée, c'est-à-dire on joue bien, 20 premières minutes, on marque, un Mofi, on a des actions, manque d'efficacité, comme toute la saison, parce qu'on doit en mettre deux, hein, presque. Hein. Samson, il a une super balle, Mofi un peu plus dur, mais quand même, il peut quand même la taper, il y a quelques belles situations. L'arbitrage contre nous, on en a parlé, on va pas en reparler, et le manque de caractère criant qui a été tout le fil rouge de cette saison, incapable de revenir au score quand on est mené. On a pris, c'est la première fois qu'on prend un point, c'est toute la saison de Nice en un match. J'ai un manque de caractère, et des choix de Farioli, je pense un peu douteux en tout cas. Je trouve que c'est pas, ça impacte pas assez. J'ai envie de dire presque à un moment, vas-y, fais un vieux truc, change un défenseur pour un attaquant et envoie dans la surface. C'est bon quoi, les 10 dernières minutes, vas-y, envoie. Au lieu de hop, Todibo arrière droit, arrête d'inventer 2 secondes.
Bah, c'est-à-dire que même les joueurs qui sont entrés en jeu, je sais pas si messieurs vous partagez l'analyse, ils n'ont pas été suffisamment bons. Je pense à Claude Maurice qui encore une fois passé à côté de son entrée en jeu. Je pense que tu parlais un petit peu de lui, Victor, indirectement
je parlais de tout le monde. Je trouve que c'est pas les changements, ils sont pas impactants, il y a pas de caractère, il y a pas cet esprit match de coupe. Mais comme il y en a pas eu de toute la saison, soit on gagnait nos matchs tranquilles au début de saison 1-0 avec souvent un bon Boulka, soit on le perdait parce qu'on était dominé. Ça a été toute la saison, on n'a pas vu de on met le feu, on retourne, on est mené 1-0, il fallait enfin de match de coupe presque, on en a pas vu. Et ça, bah hier on joue 45 minutes à 11 contre 10. Et voilà, et ça passe. Ah, il reste un quart d'heure. Finalement, on a failli perdre.
Bon, moi, je pense que la pression du résultat, il est pour beaucoup. Parce que tu mènes 1-0, l'occasion du 2-0, tu la mets pas au fond, t'as Sanson qui la met pas au fond, et là, tu doutes. Mm-hmm. Et là, tu dis, oulala, ça va être chaud, parce que si ça commence à pousser au niveau du public, si les Marseillais commencent à avoir des occasions, et si nous, on n'est pas mieux, si tu veux, dans l'agressivité au porteur du ballon, parce qu'à un moment donné, on gagnait plus un duel, je pense que ça doit jouer dans les têtes. Et on recule. Fatalement, on recule. On se dit, bon, on va bien défendre, on va voir ce qui va se passer. Et puis, si on a une occasion à mettre au fond, on va essayer de la mettre. Mais je pense que la pression du résultat peut expliquer cela. Mais après, t'as un entraîneur sur la touche qui doit galvaniser tout le monde, qui doit prendre le bateau et dire, allez les gars, stop, on se met à 3 derrière, on fait monter des joueurs un peu plus haut, on fait sortir les latéraux, on fait rentrer des milieux de terrain qui vont apporter quelque chose, parce que mis à part, alors il a été bon, hein, Aubameyang devant. Après c'était le
seul joueur de haut niveau, parce que t'avais Klose qui effectivement est un international français qui met un super but, mais qui revenait de blessure, ça faisait plus d'un mois qu'il avait pas joué. Mais oui, Francesco Farioli manque d'impact dans ses choix, dans ce qu'il incarne. En face t'avais Papi Gacé, voilà, avec ses adjoints Printemps, Abardonado, ça parle, ça transmet quelque chose. On les a vus à la mi-temps, on a vu Printemps allumer Farioli justement, mais ça transmet de l'énergie. Et c'est vrai que le problème, il est sûrement un peu mental, parce que tu peux pas parler de problème physique dans l'absence de duel. Quand tu dis on gagne pas un duel, Nice avait joué le vendredi, Nice n'a pas joué l'Europe cette saison, Marseille il sort d'une série de matchs, ils avaient joué dimanche à Toulouse, donc c'est vrai que c'est assez incompréhensible ce manque d'intensité chronique. Alors est-ce que c'est la pression du résultat? Mais comme le dit Victor, c'est depuis le début de la saison qu'on voit que ça ronronne. Donc bon, il faudra sûrement s'attendre à voir des matchs comme ça jusqu'au bout.
Bon, jusqu'au bout, avec notamment Strasbourg lors du prochain match. France Bleu Azur, c'est la radio des supporters de l'OGC Nice. Vous pouvez nous appeler pour réagir sur l'actu du gym. 04 93 82 03 04. C'est le numéro qu'a composé Renaud pour donner son avis. Bonsoir Renaud.
Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde.
Salut Renaud.
Salut.
Alors, au lendemain de ce match nul de partout, comment tu te sens? Est-ce que tu es comme Patrice, Victor et Maxime un peu débité, ou tu veux tirer un peu de positif?
Non, il y a beaucoup de frustration, parce que comme vous l'avez bien expliqué, je pense que c'est on a un manque d'ambition, donc qui se traduit par la prestation très poussive d'hier soir, où effectivement les 20 premières minutes sont très bonnes. Et après, derrière, on veut faire quelque chose qu'on sait pas faire. On veut être déjà dans la gestion, mais sauf qu'on sait pas du tout le faire. Et l'égalisation du Klose qui met un très beau but, mais ça part quand même d'un 6 mètres pour nous où on le rejette le ballon devant. Et puis on prend ce but qui les galvanise. Et c'est surtout, voilà, à chaque fois on se dit que ce qu'il faut surtout pas le remettre dans notre adversaire dans le jeu, et puis c'est nous qui les remettons à chaque fois. Donc en fait, à chaque fois on tend le bâton pour se faire punir, et malheureusement hier il y avait quand même un gros coup à jouer, et à la dernière seconde on peut tout perdre. Donc bon, c'est très très frustrant, parce que c'est l'année où on peut vraiment accrocher quelque chose de très très bien. Voilà, donc la saison est bien, et la saison est bonne, mais quand on sait que cette année il y a un ticket qui a porté, que à chaque fois on loupe le coche pour pas grand chose, des occasions qui vont se présenter vont pas être énormes, on n'arrive pas à raccrocher ce top 4. Donc bon,
Malgré tout,
c'est dommage.
Malgré tout, on reste à la lutte pour les places européennes. Ça sera une prochaine partie pour nous. C'est vrai que Renault, on garde cet espoir. On a 6 points d'avance sur Rennes qui est 7e, qui est une place vraisemblablement non qualificative pour la Coupe d'Europe. Hein, Maxime, tu me dis si je me trompe. Hein.
Pour l'instant, oui, le 7e n'est pas qualifié.
Il faut que Paris gagne la Coupe.
Voilà, ça dépendra de la Coupe de France.
On sera rouge et bleu alors lors de la finale. Hein. Désolé.
Oui. Voilà. Bon. Pourquoi pas?
Oui, je reconnais qu'il est content.
FC Procuration,
les couleurs de aussi.
C'est ça.
FC Procuration, c'est ça.
Ah, ouais. J'espère quand même que Nice va finir au-dessus de la 7ème place. On va en parler, mais ce point, il a au moins le mérite de laisser Marseille à distance, de continuer de grappiller un peu. Je pense que c'est, on est à notre place finalement, 5e, 6e, allez, et puis on arrête de rêver, on verrouille tout ça, et puis à l'année prochaine.
Rappelle-toi, après le match de Lorient, on a dit si on arrive à faire un nul à Marseille, ça sera un bon résultat.
C'est vrai.
On l'a fait, mais après c'est le scénario qui nous déplaît, mais sinon, si tu veux.
C'est la manière, ouais.
Si personne n'a regardé le match, et le mec qui n'a pas regardé le match, il va dire oh putain, bah, Nice, pas mal, ils ont gagné 3-1 contre Lorient, et ils ont fait mettre 2-2 à Marseille, putain, super, voilà. Mais c'est la fin du match.
À Strasbourg aussi. Si tu gagnes à Strasbourg, tu
peux bonifier ce point.
Face à l'équipe de Patrick Vieira, on en parle dans une prochaine partie. Prochaine partie, les tops et les flops. Et surtout, le classement. Est-ce qu'on est définitivement européen? Peut-on rêver du top 4? C'est en prochaine partie d'émission. Merci Renaud de nous avoir appelé.
Merci à vous. À très bientôt.
Ciao Renaud.
Allez, ciao Renaud. À la bête.
100% Aiglon, les tops.
Et oui, effectivement, je pense qu'il y en a un qui adorait Melvin Barre. Je crois que Maxime Bakier l'avait kiffé, on va dire.
Allez, Barre qui contrôle, Barre qui frappe! Melvin Barre qui vient remettre les pendules à l'heure, s'il vous plaît! Et glacer à nouveau ce vélodrome!
Eh oui, Melvin Barre, quel joueur, quelle frappe magnifique! Maxime Bakier, tu t'es envolé. Je mets cet extrait parce que il faut rappeler, vous pouvez écouter les matchs sur France Bleu Azur, vous écoutez sur la radio, à la radio, et Maxime Bakier vous fait rêver. Et ce but de Melvin Barre, sublime. C'est votre top, messieurs?
Ben c'est le mien, oui, effectivement, parce que au moment où on attendait un exploit individuel, il est venu du pied gauche de Melvin Barre. C'est un joueur qui, c'est Thomas De Bono d'ailleurs qui le disait la semaine dernière ou la semaine d'avant, que en fait il est tellement régulier qu'on le met même plus dans nos tops, alors qu'en fait à chaque match, il mériterait quasiment d'être notre top, parce que dans l'état d'esprit, lui, il est toujours présent. Défensivement, il fait le boulot. Offensivement, il a vachement progressé cette saison. Et un but comme ça au Vélodrome avec ce scénario, quand tu portes les cuissons du gym, ça te met en lumière, et je trouve que c'est important aussi de souligner sa prestation d'hier, mais dans une saison qui est globalement très très réussie. Ça pourrait d'ailleurs être notre top de la saison, Melvin. Alors on fera ça plus tard, on va laisser la saison se terminer, mais vraiment je trouve que c'est un garçon qui est en constante progression, qui est toujours très disponible, même en zone mixte. Hier il est venu nous voir, alors bon, quand tu marques c'est plus facile, mais quand ça perd, il est toujours là, il a toujours le mot sympa, et donc c'est bien aussi de temps en temps de prendre la lumière. C'est seulement son 3e but à l'OGC Nice, il en avait marqué 2 pour sa première saison, là c'est le 3e, et je pense que celui-là il va s'en souvenir, parce qu'il est important et parce qu'il est beau. Patrice, toi l'attaquant, la frappe qu'il met, pas mal.
La spontanéité, moi j'adore. Le mec, il a pris la décision avant d'avoir le ballon. Donc moi je suis très très satisfait pardon, des prestations de Melvin Barre depuis le début de la saison. Mais moi je vais mettre
un top différent.
Quelqu'un d'autre dans la lumière.
Vas-y, Oga,
on t'écoute.
Non.
Non plus.
Moi j'ai adoré le comportement et la prestation du petit Mendy. Il a joué, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu de pression, il n'a pas fait de faute, de grosses fautes, de fautes grossières. Il a été important, notamment sur ce centre en première intention sur Terem Moffi. Je trouve que le petit, il est arrivé au stade Vélodrome, parce que crois-moi, pour jouer au stade Vélodrome, il faut pas se caguer dessus, parce que t'as du monde, hein, qui criait, qui hurle. Hein. Et il est allé, il a joué son match, en professionnel qu'il est, et franchement, je voulais le souligner, parce que c'est bien quand on a un pitchoun du centre de formation qui arrive à faire une prestation aboutie comme ça au stade Vélodrome. Je trouve que c'est bon de le dire et qu'il le sache, parce que c'est un bon joueur, vraiment, il a fait un match très intéressant.
Victor, tu partages l'analyse de Patrice?
De tout le monde, Barre, évidemment, top 1, c'est bien de mettre Mendy en valeur, parce que effectivement, super match. Je veux aussi citer Boulka, parce que on en parle aussi jamais, mais enfin de moins en moins, mais il fait son arrêt sur Ndiaye à la fin, qui nous maintient dans le match, et finalement, le nul, il est aussi pour lui. Son jeu au pied, il est revenu d'un très haut niveau, alors qu'il a eu un petit passage à vide. Voilà, petit mot sur Boulka aussi, mais effectivement, je pense que Barre, top 1, et Mendy, super, c'est bien bien de savoir qu'il est là.
Quoi. Son jeu au pied, son jeu de bouche aussi. Parce que dans,
exactement,
le, dans cette tendresse, cette timidité,
lui,
cette gentillesse au micro.
Comparé à, par rapport à Farioli, il n'a pas dit, enfin, au contraire, que l'arbitrage a été super. Il a quand même continué à parler, il est toujours là. C'est un, quand même un futur capitaine en puissance, en tout cas.
Ah, il en a aussi, l'étoffe. Ouais, parce qu'il ose dire les choses. Et c'est vrai que dans ce monde où tout le monde se regarde un petit peu en se demandant qui va oser, lui, il y va. Alors, ça n'avait pas plu à tout le monde contre Nantes, mais on s'est rendu compte quand même que ça avait servi d'électrochoc. C'est mot fort. Et hier, on a tous vu la même chose sur l'arbitrage. Et quand Farioli se cache un petit peu, ne veut pas paraître pour le mauvais perdant, Bulka, il débarque en zone mixte et il nous dit, moi, j'en ai marre que d'une semaine à l'autre, on n'y comprenne plus rien avec leurs règles. Pour moi, il n'y avait pas pénalty. Et voilà. En fait, il nous dit, ce qu'on a tous en tête, et ça permet toujours de faire un petit peu retomber la pression quand t'entends des choses qui te semblent pertinentes. Donc effectivement, Bulka, pour l'ensemble de son œuvre, mérite aussi.
Et qui a donc la meilleure défense du championnat. À un moment, on était passé troisième défense. On est la meilleure défense avec 24 buts encaissés. Deux de moins que Lille et que le Paris Saint-Germain. Monsieur Scapin, un joueur offensif qui vous a plu? Moi, j'ai bien aimé la percussion de Boga, notamment sur le premier but. Est-ce que offensivement, il y en a un qui s'est peut-être détaché?
Même chose, pas mal. Chose, c'était pas si mal. Mais toujours dans les 20 premières minutes. Après, ils ont un peu sombré comme tout le monde. Mais on le sait très bien. Boga, il a des qualités de percussion. Quand il est à l'endroit, il fait du bien. Chaud, je trouve qu'il enchaîne quand même les prestations honorables, voire plus. Et donc, c'est pas mal.
Dans l'attitude, dans l'attitude, on sent qu'il a envie de s'intégrer, il a envie d'appliquer les consignes pour faire sa place.
Mais... En tout cas, le trio, il est installé. Et Mofi, toujours déception dans le jeu. Mais il marque, c'est un buteur, et je pense que jusqu'à la fin de sa carrière, il marquera. C'est un buteur, il faut peut-être pas lui en demander plus que ça.
C'est des rôles particuliers, en fait, Patrice.
Moi, si tu veux qu'on fasse un petit focus sur Boga, moi, c'est un mec qui me laisse toujours sur ma faim, tu vois. Tu vois qu'il est pétri de qualité, tu vois qu'il a cette percussion innée chez lui, ce changement de rythme inné chez lui, mais je trouve qu'il l'utilise pas assez. Je trouve que c'est insuffisant sur la durée du match, tu vois. Alors on va le voir 3-4 minutes, il va faire des exploits, notamment sur le premier but de Nice, et après il rentre un petit peu dans l'ordre. On va le revoir encore 2 minutes, et après pendant un quart d'heure, 20 minutes, on le voit plus aller percuter ses défenseurs directs, alors que il est là pour ça. Il est là pour aller justement chercher ses fautes, amener ce danger tout le temps sur le côté. Et il me laisse toujours un petit peu sur ma faim parce que il me frustre, tu vois. Je vois qu'il a les qualités, je vois qu'il a la puissance, qu'il a la vivacité pour aller faire plus. Et il manque quelque chose.
Et là encore, il manque un truc, tu vois. Se joue sûrement dans la tête. Mais manque de détermination.
Et on en revient toujours là. S'il y a 27 ans, il en faisait plus, qu'il serait à Nice.
Je sais pas. Ouais, certainement pas.
Mais c'est qu'il a des limites. Et nous, on espère qu'il va les passer avec nous. Mais on voit ses limites. Souvent des matchs sans et très frustrants. Évidemment, mais on sait qu'il peut faire des ravages. Et effectivement, moi, t'es son coach, t'as envie de le secouer, non?
Ah ouais, moi je suis son coach. Moi je suis coach de Jérémy Boga. Ah mais Jérémy, tous les ballons que t'as, tu vas percuter. Tu vas. Réfléchis pas. Et dans plein de clubs, ça se passe comme ça.
Doku avec Manchester City.
Dans plein de clubs, ça se passe comme ça.
Doku avec Manchester City. Et c'est Manchester City.
Tu vas percuter, tu vas provoquer ton adversaire direct. Et Jérémy Boga, c'est la consigne primordial que je lui donnerais sur le terrain.
C'est Saint-Maximin qui faisait ça à chaque fois. Bon, ouais. Après, c'était dans un désert offensif à l'époque avec Patrick Vieira notamment.
Après, il ne faut pas non plus surjouer ce rôle-là, mais il y a des situations où il doit systématiquement le faire.
Bon, justement, vous êtes sur votre fin, messieurs, avec Jérémy Boga. Parlons des flops de ce match.
100% Aiglon, les flops.
Bon alors messieurs, quels sont vos flops? Peut-être Morgan Sanson qui était notre top de lundi. Maxime, tu nous as glissé ça dans la feuille. Est-ce que c'est ton avis sur la question? Peut-être un de vous deux, messieurs. Est-ce que Sanson, voilà, vous allez laisser un peu sur votre faim ou des entrants? Farioli pour ses déclats?
Moi j'ai mis Sanson pour sa maladresse parce qu'il a une énorme occasion en début de match où il va chercher ce ballon et le ballon lui échappe et c'est une occasion qui est galvaudée et c'est lui qui perd le ballon sur le but de Klos au départ, donc c'est deux actions décisives qui ternissent en plus un match un petit peu en dedans. On l'avait beaucoup aimé pour sa justesse technique, son impact notamment sur le jeu offensif contre Lorient. Là il était un peu plus en dedans et puis il y a ces deux erreurs techniques, une offensive, une défensive qui bon parce qu'il n'y a pas de flop évident je
non,
trouve.
Non, il n'y a pas de flop
évident.
C'est vrai collectif, c'est plus collectivement qu'on
moi je mettrais Farioli comme je le disais, je trouve que à 11 contre 10 à la mi-temps, il doit faire des changements plus impactants. Jouer à deux devant, pourquoi il joue pas avec Guessant et Mofi en même temps? Je sais pas. Je trouve que ces changements, ils sont pas assez impactants. Et le petit truc de la conférence de presse, dire il y a aucun problème avec l'arbitrage, c'est un peu gros. Il est pas obligé de se cacher derrière, mais dire que ça a été super bien arbitré. Même les Marseillais, ils disent que c'est pas vrai.
Bah, il a eu deux dans l'équipe, hein, monsieur l'arbitre, et un dans Nice Matin, hein, si je me trompe pas, Maxime.
Oui, oui, mais bon, après, ça c'est.
Bon, c'est un autre débat.
On demande pas à Farioli de noter l'arbitre, mais simplement d'être juste dans son analyse du match.
Bon, alors, si on n'a pas de flop, messieurs, on va passer à la partie sur le classement. Je rappelle, l'OGC Nice 5e, 48 points, 6 d'avance sur Rennes qui est 7e, 2 d'avance cependant sur Lens, hein, qui a gagné, et 4 de retard sur Lille qui est 4e, place de barrage pour la Ligue des Champions. Messieurs, comment se positionne? Est-ce qu'on regarde devant, on regarde derrière? C'est un peu le dilemme en ce moment. Patrice, peut-être?
Non, mais moi, encore une fois, tant que comptablement, il y a la possibilité d'aller attraper la plus haute place, si tu veux, qui serait qualificative en Coupe d'Europe, il faut regarder devant, il ne faut pas regarder derrière. Parce que tant que tu regardes devant, eh ben, ça te donne de l'ambition pour aller chercher des résultats et grappiller des points. Mais encore une fois, moi, je pense que Nice est encore bien placé pour attraper une Coupe d'Europe, et je pense vraiment qu'on va y arriver, parce que si encore une fois cette septième place devient une place qualificative à une Coupe d'Europe, forcément qu'on doit y être, et pour bonifier bien évidemment cette saison. Donc voilà, moi je pense que Nice est à sa place aujourd'hui, mais qu'on a encore le destin entre nos mains pour aller chercher plus haut.
Victor?
Bah, on espérait être à 3 points de Lille pour s'offrir une finale pour la Ligue des Champions lors du dernier match, et Lille-Nice, on le rappelle, on est à 4 points. Donc peut-être qu'ils vont pas avoir un parcours aussi sans embûches, les Lillois. On est à notre place, on est moins fort que Paris, que Monaco, que Brest, que Lille. Mais bon, pourquoi pas s'offrir une finale contre Lille. Le seul problème, c'est que on est les lésés du chamboulement de championnat, où à la fin de la saison, on va enchaîner tous les 3 jours Le Havre, Paris, Lille. On est les seuls à le faire 2 fois dans les 2 périodes, donc on est un peu lésés par ça. Il faut leur faire contre ça, mais on peut viser au-dessus. C'est un championnat où il n'y a pas beaucoup de points. Il n'y a qu'une seule équipe, le Paris Saint-Germain, avec plus de 2 points de moyenne. Donc on peut encore arracher la Ligue des Champions. En tout cas, il faut la viser pour au cas où être en Ligue Europa et éviter cette Conférence League qui serait un peu dommage vu le parcours de la saison.
Maxime, on commence déjà à se projeter sur la saison prochaine avec l'Europe, selon toi?
Bah, je pense qu'on peut dire merci Monaco, hier soir, qui a fait le boulot. Les Monégasques, on ne les reverra plus, à mon avis, podium verrouillé pour eux, parce que derrière, ça te laisse effectivement avec cet espoir de se dire que si tu arrives à grappiller 2 points à ces Lillois d'ici la dernière journée, parce que vu la différence de but, il faut leur reprendre 2 points aux Lillois sur les 3 prochains matchs pour arriver à Lille lors de la dernière journée et s'offrir une finale pour espérer remonter sur le top 4 et viser la Ligue des Champions, ou alors espérer aussi que Brest s'écroule définitivement. Quand tu regardes les calendriers, c'est pas facile, hein, pour personne. Brest, ça va à Rennes, ça reçoit Nantes, ça reçoit Reims, ça va à Toulouse. C'est pas des grosses affiches, mais tout le monde va jouer quelque chose dans cette fin de saison, alors que Lille se déplace à Metz ce week-end. Bon, Metz, ça va mieux, mais c'est pas foufou. Ensuite reçoit Lyon, qui a cette finale de Coupe de France en tête, va à Nantes, qui gagne pas un match à la maison, avant de recevoir Nice. Donc est-ce qu'il faut mieux viser Lille, Brest?
Bon, peut-être qu'on sera content les deux équipes d'un match nul dernière journée, hein, ça peut arriver aussi, hein. C'est le genre de scénario qui peuvent arriver aussi, hein.
On a connu des fins de saison exceptionnelles. Je me rappelle la saison 2012-2013 où Nice va à Ajaccio et Lille joue Saint-Etienne, et le match nul entre les deux équipes profite à Nice qui va battre Ajaccio.
Ah, on a eu aussi le Delors qui nous donne l'Europa League. On a eu ces dernières journées.
Comment il s'appelle?
Dolberg,
doublé
sur le gong.
Qui nous envoie sur le gong.
Il se passe des choses souvent dernière journée. Il n'est pas terminé. Le classement ne sera pas celui-là. Juste, il ne faut pas être les dindons de la farce et sortir du top 7, ça serait horrible.
Non, mais je pense qu'on a notre place. Impossible. 5e, finalement, ça correspond assez bien à cette saison. Très, très parti, très fort. Et puis là, c'est plus timide. Et si on est 5e, c'est aussi, comme tu le disais, Victor, tout à l'heure en off, parce que la concurrence ne fait pas le boulot. Parce que vu la deuxième partie de saison que tu fais, tu n'as même plus être 5e.
Mais tu regardes juste ce qui est très, très, très révélateur, c'est le nombre de buts marqués par rapport aux équipes de tête. C'est là où notre défaillance, notre carence, elle existe, on le dit depuis longtemps. La justesse technique devant le but, l'efficacité, elle nous mène à notre 5e place. Si on avait marqué plus de buts, avec les occasions qu'on a eues, on serait certainement pas là.
Moins de buts que Lorient, avec 36 buts, qui est 17e, donc ça en dit long sur la prouesse. Ouais.
Sur les 13 premières équipes de Ligue 1, t'as la pire attaque.
Mais la meilleure défense,
c'est chacun ses armes. Mais c'est vrai que si Boga avait pu marquer à Reims à un mètre du but, ça nous aurait arrangé.
C'est pareil.
100% Aiglon. 100% Aiglon. Sur France Bleu Azur.
100% Aiglon. Dernière partie, toujours avec la Team Sport, Patrice Alberganti, Victor Jutner, Maxime Baquier. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez participer à l'émission en nous appelant 04 93 82 03 04. Vous pouvez aussi gagner deux places pour le Monaco e-prix de ce week-end. C'est ce samedi 27 avril, toute la journée. Une super course de voitures, de la Formule E, des voitures électriques qui filent sur le rocher, c'est comme la Formule 1, mais électrique. C'est simple, pour gagner vos places pour le partenaire de France Bleu Azur, 04 93 82 03 04. Marie-Chantal vous attend. C'était notre petite parenthèse sur donc le Monaco e-prix. Nous, effectivement, nos aiglons ne filent pas à vive allure, pour reprendre la parabole. Mais c'est effectivement, on parlait il y a quelques instants de cette moitié de saison qui était vraiment pas bonne. Je pose encore la question de façon peut-être un peu provocatrice. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas être en Europa League plutôt qu'en Ligue des Champions pour peut-être s'offrir un parcours qui serait peut-être meilleur? Victor, je te vois
non,
réagir.
Mais évidemment que l'Europa League, même la Conference League, est une Coupe d'Europe plus dimensionnée pour Nice. On va pas se mentir. Mais la Ligue des Champions, il faut absolument, si on peut l'avoir, la prendre. Il y a beaucoup d'argent, c'est une nouvelle formule avec beaucoup de matchs, beaucoup d'argent. Justement, puisqu'on cherche le projet Ineos à passer le cap, c'est l'année ou jamais presque. Donc, mais évidemment, en termes sportifs, la Conference League ou la Ligue Europa, c'est des Coupes d'Europe plus à notre portée. Ouais.
Et puis le pied de nez à Ineos, à Manchester United, qui ne la jouera pas cette Ligue des Champions, ils sont largués les Mancuniens. Ce serait aussi une petite cerise sur le
ils
gâteau.
Ils sont en finale de coupe, hein. Non, contre City.
Oui, mais ça t'offre pas de billets pour la Ligue des Champions.
Non, alors, Ligue
okay,
des Champions.
Ils vont prendre leur titre peut-être, alors, même s'ils vont se faire sûrement éclater par les Citizens. Mais si jamais le GYM est en Ligue des Champions et Manchester United en Europa League, on s'en friserait un peu les moustaches, Patrice. Hein.
Oui, 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 bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'il faut viser toujours le plus haut possible quand t'es compétiteur. Mais effectivement, la Ligue des Champions, ça peut être synonyme de beaucoup de choses pour la ville, pour le club, pour les joueurs, pour l'attractivité du recrutement, tout ça. Tu sais, ça peut jouer, tu vois. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à attraper une Europa League ou une Conference League, on n'aura pas à rougir. Parce qu'on sera, effectivement, on n'en parle pas trop en ce moment, mais le projet Ineos à la base, c'était de mettre l'OGC Nice régulièrement en Coupe d'Europe. Si on arrive encore à avoir une Coupe d'Europe cette année, ça veut dire que on est en Coupe d'Europe quasiment tous les ans. Voilà. Donc,
depuis le début, c'est ça.
Un an sur deux, c'était l'objectif. Et donc on aura atteint l'objectif.
Non, il y a pas mal de clubs qui sont construits comme ça. Hein, c'est-à-dire, on part à Séville. Il y a beaucoup de clubs qui sont construits par les petites coupes d'Europe, en les considérant et petit à petit monter marche après marche. Mais pour ça, il faut se qualifier tous les ans, une année sur deux, vraiment maximum.
Oui, on le fait bien. Et encore une fois, ça fait grandir le club en termes aussi, je le répète, d'attractivité. Quand tu signes dans un club que tu sais qu'ils sont toujours tous les deux ans ou tu vois en Coupe d'Europe, tu sais que tu vas être au devant de la scène, tu vas pouvoir jouer sur la scène européenne, tu vas pouvoir te montrer. Et c'est complètement différent. Dans les objectifs, c'est pas les mêmes en tant que sportif. Donc moi, je trouve que Nice, s'ils arrivent à avoir une Coupe d'Europe, ça sera une bonne saison.
Bon, ça passera par des bons prochains matchs. Le prochain match est contre Strasbourg dimanche à 15h, donc match à la Méno contre Patrick Vieira. Le duel entre Patrick Vieira et Francesco Fraoli, duel de style entre guillemets. Messieurs, comment vous le voyez ce match contre Strasbourg, est-ce que vous voyez un match plutôt serré face à une équipe de Strasbourg qui est déjà quasiment sauvée? Comment est-ce que vous voyez la rencontre, Maxime Baquier?
Le match des mous, un peu. Tu sais, c'est deux équipes un peu.
Pas Mourinho. Hein.
Non. A priori, c'est pas le match des Mourinho. Non, mais c'est deux équipes qui incarnent une forme un peu de tiédeur cette saison, deux équipes un peu molles sur le terrain. Pour en avoir discuté avec des confrères strasbourgeois, on s'est vraiment ennuyé à la Méno cette saison, même si ça va un petit peu mieux là ces dernières semaines. Ils ont enchaîné 3 victoires en 4 matchs avant de perdre à Lille. C'est vrai qu'il y a eu ce qu'on a un peu subi à Nice avec l'arrivée d'Ineos, changement de projet avec le nouvel actionnaire Blouko là qui est arrivé à Strasbourg l'été dernier, nouvel entraîneur, groupe largement rajeuni, il fallait trouver les automatismes. Mais je pense pas qu'on retrouve la même intensité à la Méno que ce qu'on avait pu subir en fin de saison dernière, où Strasbourg jouait son maintien avec un Fred Antonetti sur le banc et on avait complètement subi les événements. C'était sabordé dès la première minute, Todibo une grosse erreur, défaite 2-0, et je me souviens de Digard qui avait parlé de faute professionnelle à la fin du match. Donc je pense pas qu'on puisse être pris à la gorge comme ça samedi, mais c'est comme on le disait tout à l'heure, la rencontre à gagner, parce que ça te valoriserait ce point pris au Vélodrome, ça te permettrait de continuer de t'accrocher à ce rêve de top 4, et je pense là vraiment définitivement d'acter la qualif en Europe pour la saison prochaine.
Messieurs, est-ce que c'est pas plutôt positif de jouer une équipe qui n'a plus rien à jouer? Quel est votre avis sur la question?
Ouais, mais moi je suis plus optimiste que ça, parce que en termes d'effectifs on est meilleur. En termes de dynamique on est pas mal, parce que même si on a fait ce match 2-2 à Marseille, on a quand même ramené un point, on a fait un match difficile, poussif, mais on est quand même là, et je pense que le capital confiance est du côté des Niçois. Les Strasbourgeois n'ont plus rien à prouver, n'ont plus rien à jouer. Je pense qu'ils vont peut-être préparer la saison prochaine et faire jouer peut-être encore plus de jeunes que ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Et je vois pas un gros problème en terre strasbourgeoise. Et encore une fois, je le répète, notre pire ennemi à nous, c'est nous. Hein. Donc si nous, on a les intentions, on met ce qu'il faut pour aller chercher un résultat comme on a pu le faire à Lens quand on y a été, il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas avec un résultat positif. Alors, un nul, pourquoi pas, une victoire, ça serait magnifique.
Non, je suis tout à fait d'accord. On peut le faire et on doit le faire. Effectivement, ils n'ont rien à jouer, donc si on leur met la pression... Eh ben, il y aura normalement pas de souci, mais est-ce qu'on sait mettre la pression? Tout le problème est là, donc ouais, je rejoins mes camarades.
Mais ce qui se caractérise Strasbourg, c'est le fait que, hormis contre Lille le week-end dernier, souvent ils sont capables de faire des résultats contre les plus gros du championnat ou les équipes similaires aux nôtres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, ou au contraire vous vous dites non, on va prendre la mesure de cette rencontre?
Je crois que c'est le lot de ce championnat. Hein. À part Paris, tout le monde peut faire tout contre tout le monde. C'est pas que nous, c'est pas que Metz peut gagner.
C'est le syndrome peut-être d'une équipe jeune qui justement a des cycles,
ouais.
Face à un gros du championnat, ça permet de motiver un petit peu tout le monde vers un objectif commun, d'aller essayer de se montrer, de faire tomber un gros, et ça a tendance peut-être à se relâcher dans des affiches un peu moins clinquantes. C'est vrai que je me souviens d'avoir vu le Strasbourg PSG il y a pas longtemps, où les Alsaciens, qui étaient vraiment dans le dur, avaient bougé les Parisiens, donc ils en sont capables, mais peut-être pas sur la durée d'un match, et c'est vrai que ça nous ressemble un petit peu. Donc je suis pas sûr qu'on se régale à la Méno dimanche, mais bon, espérons quand même le petit succès 1-0 qui ferait du bien.
Un match que tu commenteras dès 14h30 hein, pour l'avant-match, Maxime Baquet, c'est bien ça?
Ouais, et je serai attentif à la compo, parce que moi, il y a quand même un choix qui m'a interpellé hier, c'est la titularisation de Pablo Rosario au milieu, à la place de Youssouf. Et alors,
Qui n'est même pas rentré.
Choix physique, nous a expliqué Francesco Farioli. Donc on va pas remettre en cause ce qu'il nous dit, mais il était rentré contre Lorient, Youssouf Ndaye Chimier, pour la dernière demi-heure. On l'attendait titulaire, puisque c'est quand même un homme de base de Farioli dans ce milieu de terrain. Des retours qu'on a en interne, Farioli est vraiment devenu fan de Pablo Rosario pour tout ce qu'il apporte. De là à ce qu'il ait piqué la place de Youssouf au point de ne pas le faire rentrer, on a un petit peu l'impression qu'il a perdu son joueur, Farioli.
Je te vois faire la tête, Victor.
Non, moi c'est Rosario.
Je sais que t'adores Rosario.
Non, mais Rosario, franchement, j'ai rien envie de dire sur lui. Je suis très content de l'avoir dans l'effectif. C'est le genre de joueur qu'il faut avoir dans l'effectif. Après, je trouve que quand il est autre chose qu'un couteau suisse, c'est pas bon signe. Ça veut dire que les autres, ils travaillent pas assez, qu'ils sont pas à sa place, qu'ils lui ont pas piqué. S'il joue trop, Rosario, à mon avis, pour moi, c'est un 4 sur 10. C'est-à-dire qu'il a jamais 2, jamais 8. Et il fait ses matchs, et c'est très bien de l'avoir. Quand il est titulaire numéro 6 de mon équipe, qui joue l'Europe, c'est pas bon signe pour mon équipe. C'est tout ce que je dis après, je suis très content de l'avoir.
Patrice, ton avis sur Pablo Rosario, sur sa titularisation?
Moi, Pablo, dans l'attitude, il n'y a rien à dire. C'est un joueur sur lequel tu peux compter, c'est un soldat, c'est un coéquipier exemplaire. Après, sur le match qu'il fait hier, il ne fait pas un mauvais match. Hein. Il est là dans tous les duels, il fait du Pablo Rosario. Après, moi, j'ai eu cette interrogation. Quand j'ai vu la composition d'équipe, j'ai pas vu Ndaye Chimier. Je me suis dit, bon, il va le faire peut-être rentrer un peu plus que la dernière fois. Tu vois, une grosse partie de la deuxième mi-temps, je l'ai même pas vu s'échauffer, je l'ai même pas vu rentrer. Donc je suis resté un peu surpris. Mais après, ça n'enlève rien aux qualités de Pablo Rosario, et ça n'enlève rien à son utilité.
Autre peut-être surprise qu'on est dans la compo hier, c'est la titularisation d'Antoine Mendy à la place de Jordan Lotomba. Est-ce que, Maxime, selon toi, ça sera amené à être reconduit cette...
Ça dépendra de l'état physique du Suisse, qui hier n'était pas sur la feuille après le coup reçu contre Lorient. A priori, comme pour Thuram, ce n'était qu'un coup, et il devrait être de retour dimanche dans le groupe. Mais c'est vrai que vu la perf du petit Mendy, qui est un peu comme Guessant Mofi, on a l'impression que Mendy a apporté tout ce que Lotomba est incapable d'apporter depuis des semaines. Donc pourquoi pas jouer la continuité et lui ouvrir ce couloir pour la fin de saison. De toute façon, Valentin Rosier, flop absolu de cette deuxième partie de saison, il va rentrer en Turquie. L'Otomba, il est encore sous contrat. Il va falloir se trouver une doublure ou peut-être un numéro 1 bis à Mendy de montrer sur cette fin de saison qu'il peut avoir du temps de jeu, rentrer dans cette rotation encore plus la saison prochaine.
Dernière interrogation pour vous, messieurs, le trio offensif. Quel trio doit-on aligner ? Je vois Victor un peu hausser les sourcils.
Honnêtement, parce qu'on n'en sait rien. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Quel trio ? Il y en a aucun qui me convainc vraiment. Il y a aucun. C'est toujours l'absent qui a raison. On a envie de voir Guessant parce qu'il joue pas assez. Mais quand je trouve qu'il joue trop, ça a non plus pas été tout le temps incroyable. Laborde, il est tout le temps joué. Maintenant, il joue pas. J'ai l'impression que quand même, on est perplexe comme Francesco Farulli. Mais lui, il semble avoir trouvé son trio.
Bon, c'est l'essentiel en tout cas. Messieurs, votre petit pronostic pour le match de dimanche à 15h à suivre, évidemment, sur France Bleu avec Maxime Baquier. Allez, on commence par Patrice, ton pronostic.
1-0 pour Nice.
1-0 1-0 pour Nice. Buteur ?
Mohamed Ali Chaud.
Allez, Mohamed Ali Chaud, une droite. Victor.
1-0 aussi, corner de Todibo.
1-0 corner, enfin,
corner rentrant. Corner. Todibo.
Sur corner, la tête de Todibo.
Allez, 2-0. Sanson au bout souvenir de la Méno et un petit but de Boga pour faire mentir Patou. Pour faire plaisir.
Non, moi, ça me ferait plaisir qu'il upgrade un peu.
C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.
Et
merci,
toi, Ben.
Messieurs. Pardon ?
Et toi, Ben ?
Mon petit pronostic ?
6-0.
Ah non, bah bon.
T'es un peu alsacien,
je suis un peu alsacien, voilà. Donc, je suis niçois, mais aussi un peu alsacien. Écoutez, je vais dire 0-0.
Ah ouais, voilà.
Non,
ah
ouais. Souvent mon pronostic c'est 0-0 en ce moment. Je vais pas bouger.
Les chèvres seront bien gardées.
Eh ben, tu vas t'éclater, man.
Ah ouais. On arrête de débriefer ça lundi prochain.
Ceci dit, c'est bon la méno, le buffet ?
Oui, les bretzels.
Bon, bah super.
Je pète-le,
mène-le. Allez, merci d'avoir suivi cette émission. Vous la retrouvez sur francebleu.fr et l'application ICI ICI. Merci à tous et à demain.
100% Aiglon sur France Bleu Azur.